ברוך השם, ובוס תשומן, שורה פרשה לך לך, פיוטט, פיוטט תשומנתו, עבור המציפה פרשה ועירה. בפרנסית דיקור, סיקילי קור. נורלמן. On voit que dans la paracha Lecha, il y a une question extraordinaire qui se pose. On voit que Kadosh Baruch Hu, au début de la paracha, il dit à Avraham Avinu, Lech Lecha, Mi'artzecha, Omiolatecha, Mbet Avicha, La'aretz Asher Areka. D'accord? Tu vas partir pour toi, de ta terre, de l'endroit où tu es venu au monde, de la maison de ton père, vers la terre que je te montre. D'accord? Chachamim disent, quelle terre? Eretz HaTova. On parle d'Eretz HaKodesh. Maintenant, Vesecha, Negoï Gadol, Vavechecha, Vaged la Shemecha, Vebracha. D'accord ? Il lui explique que non seulement il va lui faire de lui une grande nation, mais il va le bénir, il va grandir son nom, il y aura une grande bénédiction. À quel point ? Vavacha, Vavachecha, Mekaecha, Vinivrichuvecha, Kol Mishpechot Adama. Grâce à toi, il y aura une grande bracha. La Klala, je vais, taklala, j'en ferai une grande lumière, entre guillemets, et seront bénis par toi toutes les familles de la terre, toutes les nations du monde. En fait, ici, il y a une question extraordinaire qui se pose. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu ? Il lui dit, voilà, je te promets, Avraham Avinu, il n'est pas jeune, hein. D'accord ? Il faut bien réaliser, il a 90 ans. Et à Kadosh Baruch Hu, il lui promet quoi ? Il lui promet de lui donner une terre, super. Lui donner la bracha, lui donner la richesse et lui donner une descendance. Prenez tout ça. Qu'est-ce qu'il lui demande ? Il dit, tu dois partir de la maison de ton papa. Tu dois partir de la terre où tu habites. Et on dit que c'est une grande épreuve pour Avraham Avinu. Donc moi, je pose la question. On parle d'un enfant de 3-4 ans. On parle d'un homme marié de 90 ans qui n'a pas encore d'enfant. Dieu se dévoile à lui. Il lui donne une grande bracha. Il dit, je te promets, t'as pas... Je te promets une grande terre, un pays pour toi entier. Je te promets l'argent, je te promets la réussite et je te promets la descendance. On n'a jamais vu dans notre monde, dans la société dans laquelle on vit, quelqu'un qui, pour des besoins professionnels, arrive à l'âge adulte, il se marie, il est obligé d'aller à l'étranger, il s'éloigne un peu de sa famille. Mais quand il va partir à l'étranger, un monsieur qui va quitter la France pour aller en Israël, pour aller aux États-Unis, et là-bas, on lui assure un métier, une carrière, de l'argent, un avenir. C'est une épreuve. Les gens, ils disent, attends, je vais aller quelques années, je vais gagner de l'argent, après je vois ce que je fais dans ma vie. Oui ou non ? Voyez l'épreuve. Où est l'épreuve d'Abraham Avinu ? On nous pose cette question. Chachami lui pose cette question. En quoi c'est une épreuve de dire à Abraham Avinu, Lech Lecha, va pour toi. Essayez d'imaginer demain, un des PDG les plus puissants du monde, des plus riches au monde, on va donner un exemple, un que j'aime beaucoup, Bill Gates, il vient vous voir, il dit, tu sais quoi, t'habites en Israël, j'aimerais pendant quelques années que tu viennes aux États-Unis, de Silicon Valley, je te donne un poste, je te donne une femme, je t'assure que tu auras des enfants, et je te donne un super salaire. Et en plus de ça, je te donne une super propriété avec maison, piscine, tout ce que tu veux. C'est une épreuve. Il dit, fais-le pour toi. Vous voyez là une épreuve ? C'est exactement ce que fait Kadosh Baruch Hu à Abraham. Sauf que Abraham, celui qui donne la promesse, c'est Dieu. Il y a mieux que Dieu pour tenir une promesse et de la tenir. Il n'y a pas mieux. Alors la question, c'est la suivante. C'est quoi l'épreuve ? L'Erlecha. Le terme l'Erlecha. Va pour toi. Ça veut dire quoi ? Est-ce que moi, quand je te promets la bracha, la tzlacha, la bénédiction, la réussite dans toutes tes actions, que je te promets une grande terre, une belle terre, une terre riche, que je te promets la réussite, l'argent, Avraham Avinu, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas un berger. C'est un homme qui, lorsqu'il est arrivé en Israël, il a mené une guerre contre 11 rois. Il a soulevé une armée. Il a vaincu 11 rois. C'est devenu un seigneur de guerre, Avraham Avinu, que son petit-fils Esav, il va sortir contre un des empereurs les plus puissants du monde, Nimrod. Le même Nimrod qui a voulu jeter Avraham dans la fournaise. Et on voit quoi ? On voit que Avraham, dans toute sa tzlacha à lui,
Nous, on pense que c'est un petit berger. On dit, le pauvre, il est parti dans le désert, il a vécu difficilement, il n'a pas vécu difficilement. Dans le désert, on va voir après dans la Parasha Vayera, il va faire la Brit Mila à l'âge de 99 ans. L'âge de 99 ans, il fait la Brit Mila. On pose la question, pourquoi il fait la Brit Mila à l'âge de 99 ans? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, dès qu'il lui a dit l'Ech Lecha, il avait 90 ans, il ne lui a pas ordonné, avant de partir, de faire la Brit Mila? Pourquoi il a attendu d'abord qu'il parte pour lui donner la mitzvah, et à l'âge de 99 ans. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle nous enseigne qu'un homme à l'âge de 100 ans, il est considéré comme mort. C'est quoi la réponse de la Mishnah? C'est terrible de dire à 100 ans, il est mort. C'est quoi? C'est un légume? C'est un vieux? Avraham Avinu, c'est un seigneur de guerre à ce moment-là. On te dit quoi? On te dit non. Avraham Avinu, essayez de comprendre. Avraham Avinu, à l'âge de 99 ans, il va aller pour sauver son neveu Lot de Sdom vers Amora. Il y a trois anges qui vont venir le voir, juste après la Brit Mila. Pourquoi 99 ans et pourquoi on considère qu'un homme à 100 ans, il est mort? On considère qu'un homme à 100 ans, il a une telle expérience de la vie que son mauvais penchant, il a moins d'influence sur lui. Avec l'âge, quand on avance dans l'âge, Baruch HaShem, ici vous avez M. Cohen, ton père, Baruch HaShem, que Dieu lui prête une longue vie, une bonne santé jusqu'à 120 ans, il peut vous confirmer qu'en avançant dans la vie, les mauvais penchants qu'on pouvait avoir plus jeune, ça devient avec l'âge des futilités. On n'y pense même plus. Ce mauvais penchant-là, c'est même plus un mauvais penchant. Plus on avance dans l'âge, moins on a un mauvais penchant. Quand on arrive à l'âge de 100 ans, il n'y a quasiment plus de Yetzer Hara pour un homme. De ce fait, Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner un mérite à Abraham et nous enseigner une chose, qu'il lui a donné la mitzvah à l'âge de 99 ans pour qu'il ait le mérite de lutter contre son Yetzer Hara pour avoir le mérite de la mitzvah. Ça rejoint ce qu'on a dit sur la paracha de Noah. Pour quelle raison Noah, pour ceux qui ont écouté le Shiur, qui se rappellent, pour quelle raison Dieu a demandé à Noah de sauver les Mazikim, de sauver les démons de ce monde, qui vont être après les principaux acteurs du Yetzer Hara, du mauvais penchant dans notre univers? Et on répond, parce qu'on a besoin du mauvais penchant pour avoir du mérite. Donc Abraham, à Kadosh Baruch Hu, pour lui donner le mérite de la mitzvah de la Brit Mila, il a besoin qu'Abraham lutte contre ce mauvais penchant, ainsi il lui ordonne la mitzvah de la Brit Mila à l'âge de 99 ans. Maintenant, on reprend. Si Abraham, maintenant, il est assuré d'avoir un avenir parfait, en quoi elle est son épreuve? L'Ech Lecha. Quand moi, je vais venir, et je vais te promettre la réussite dans tous les domaines, toi, est-ce que tu vas partir pour toi? Ou est-ce que tu vas partir pour moi? Est-ce que tu vas partir pour ta réussite à toi, quand je vais te donner de l'argent, quand je vais te donner de la réussite? Qu'est-ce que tu vas en faire de ça? C'est ça la question. C'est l'épreuve d'Abraham. C'est l'épreuve à laquelle soumet Dieu à Abraham quand il lui dit l'Ech Lecha. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire, toi, pour toi? Est-ce que pour toi, tu vas te contenter de la réussite matérielle de ce monde et devenir un seigneur de guerre et t'installer en Israël et d'y être là-bas le plus gros propriétaire immobilier? Ou est-ce que tout simplement, tu vas te servir de cette bénédiction pour faire ma volonté? Et c'est ça l'épreuve d'Abraham à venir. C'est pas du tout ce qu'on croit. Qu'il a dû partir de la maison de son père. On rapporte même qu'Abraham, premièrement, quand il est parti, il était en bon rapport avec son père Terah. Il était en très bon rapport avec son père Terah. Quand il est même allé à l'enterrement de son père Terah. On le voit dans le Midrash. Et on dit qu'Abraham, parce qu'il a trop pleuré, qu'il n'a pas accepté la mort de son père, et ce qu'il a culpabilisé du fait d'avoir été éloigné de son père, à Kadosh Baruch Hu, pour rappeler Abraham à l'ordre, en même temps, très peu de temps après, il a rappelé au ciel son épouse Sarah. Pourquoi? Tout simplement parce que Abraham est un homme qui n'accepte pas le cycle de la vie. Que dans ce monde, on n'est là que pour une période temporaire, on est appelé à quitter ce monde, notre âme est appelée à monter au ciel. Si on n'accepte pas cela, Kadosh Baruch Hu, ça ne lui fait pas plaisir. Donc quand on a quelqu'un qui nous quitte, quand quelqu'un quitte ce monde, bien sûr qu'on est triste, parce que la personne va nous manquer. Mais on sait qu'on va la revoir à la résurrection des morts quand le Messie va venir. Ça, c'est premièrement. Il faut accepter le cycle de la vie. C'est pas évident. Maintenant, si on pleure trop, quelque part, si on pleure trop, c'est on manque de Emouna, on manque de croyance en Dieu, on manque de croyance en la résurrection des morts. Et un tzaddik comme Abraham, c'était pas recevable pour Dieu. De là, on nous apprend que lorsqu'on va à l'enterrement, faut pas trop pleurer. C'est bien de pleurer, et pas trop. C'est bien de faire l'horizon funèbre d'un défunt, mais pas trop. Pourquoi? Pour ne pas se rentrer dans une tristesse totale. Pourquoi? Parce qu'on sait une chose qui est extraordinaire. On dit que le monde dans lequel on vit, c'est Olama Afour, un monde qui est à l'envers. On va donner un exemple simple. Quand nous, on a une simcha, on a un khatan, une kala qui se marie. On est joyeux. Quand ils vont avoir un enfant, on est encore plus joyeux. Comme on est un peu macho, quand c'est un garçon, il y a la mitzvah de la Brit Mila, on est très heureux. Pour quelle raison en réalité? Parce que le garçon, il a l'obligation d'étudier la Torah. Et on sait qu'il va rajouter à ce monde du temps d'étude à la Torah. Et là, ça va rajouter du mérite à toute l'humanité. On est très très joyeux. Et en fait, nous on est joyeux, mais dans le ciel, tout pleure. Quand la neshama, l'âme d'un enfant, descend dans ce monde, dans le ciel, toutes les neshamas, elles pleurent. Elle dit, il a cette pauvre neshama. Elle va descendre dans un corps humain. Elle va devoir surmonter le yetzarara du mariage. Se marier, ne pas se marier. Le yetzarara du shalom bayit. Comment s'annuler face à son conjoint, sa conjointe, pour arriver à avoir la paix à la maison, pour arriver à construire ensemble quelque chose d'extraordinaire. À chacun faire une petite concession pour ensemble sublimer ce qu'on appelle la plus vieille institution qui est le mariage, pour ensemble construire un foyer, qui vont à leur tour reprendre le flambeau de la Torah et des mitzvot. Et de la même façon, lorsqu'une âme quitte ce monde, nous ici on pleure, on est triste, mais dans le ciel. Quand une âme quitte ce monde, remplie de Torah, remplie de mitzvot, dans le ciel, il chante, il danse. Il dit voilà, il a surmonté l'épreuve du monde matériel, l'épreuve de l'argent, l'épreuve de toutes les épreuves qui vont avec le corps pour arriver à faire les mitzvot, et avec elle, cette âme nous ramène des mitzvot. C'est pour ça qu'on dit Olama Afour. Donc on voit quoi? Quand un bébé vient dans ce monde, nous on est joyeux, dans le ciel ils sont tristes. Et quand une âme est dans ce monde, nous on est triste, dans le ciel ils sont joyeux. Ce qui veut dire que quand on va assister à un enterrement, Chachamim, comment ils appellent les lois de l'enterrement? Les lois de l'endeuillement? Ilchot smachot. Smachot, les joies. Les lois des joies. C'est quoi smachot? On pourrait dire sa mère. C'est la joie, réellement. C'est pas un événement, c'est la joie. Pourquoi smachot? Parce que dans le ciel, le Hémet, on est joyeux quand une âme monte avec ses mitzvot. Il y a Ilchot avelim, Ilchot aveout, les lois de l'endeuillement. Mais les lois en rapport même avec la façon d'enterrer le mort, pas de prendre sur soi le deuil, mais d'enterrer le mort, c'est chot smachot. Pourquoi? Ça va plus loin. On dit que le tzaddik, qu'est-ce qu'on célèbre? On dit iloula. Un tzaddik, on dit pas la askara, on dit iloula. C'est quoi iloula, la racine? Allel, c'est une louange pour l'éternel. Pourquoi? On considère qu'une personne qui fait la Torah et les mitzvot, à travers sa Torah et ses mitzvot, elle s'unit à Dieu. Ou à Sinaï, on nous rapporte quelque chose d'extraordinaire. On dit, il y a un midrash fantastique qui nous dit, Kohar Sinaï, Dieu, c'était le fiancé, le peuple d'Israël, c'était la fiancée, et la Torah, c'était la Ketouba. Pendant longtemps, les autres nations ont dit que lorsque les peuples, les bénis Israël ont été en exil, ils ont été exilés de leur terre, on dit, Dieu, il s'est fâché avec eux. Et la réponse qu'on donne, c'est quoi? C'est qu'en réalité, un homme, parfois, il peut se fâcher avec sa femme, quand ça va pas, quand il s'entend pas avec sa femme, quand elle fait pas ce qu'il faut. Il peut arriver à un moment donné où le couple peut se séparer. Mais tant que le mari ne donne pas le guet à sa femme, c'est qu'il n'a pas envie de se séparer d'elle. À Kadosh Baruch Hu, bien qu'il nous a envoyé un petit peu moins que de 2000 ans en galoute, et que maintenant ça fait une centaine d'années que les juifs, on les a vu revenir sur la terre d'Israël de façon massive, à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi sa réponse? Dis-moi, ça n'allait pas avec ma femme, le Ham Israël. Je ne lui ai pas donné le guet au Ham Israël. Je ne les ai pas divorcés. Je les ai renvoyés de la maison pour qu'ils se corrigent. Et on a eu toutes les épreuves qu'on a eues en galoute pour avoir le mérite de revenir sur la terre d'Israël pour y faire la Torah et les mitzvot. De ce fait, quand on revient sur la terre d'Israël, on est comme Avraham. Quand nous, de France, on est arrivé sur la terre d'Israël, Lech Lecha, est-ce que tu t'en vas pour toi? Est-ce que tu quittes le pays d'origine pour te sauver de là où tu es parce que tu ne supportes plus ta vie, la grisaille de Paris? Ou est-ce que tu viens sur Eretz HaKodesh, sur la terre sainte? Et si tu viens ici, est-ce que c'est pour toi, pour aller kiffer à la plage? Pour kiffer? Ou est-ce que c'est pour un Kadosh Baruch Hu? Dans tout ce que tu fais, en réalité, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend ce que Chacham nous disait. Misva, l'élo kavana, kekouf bineshama. Ça veut dire quoi? Une misva, une action, une ordonnance divine qui est faite, qu'on traduit littéralement, qu'on traduit plus vulgairement, une bonne action, sans attention, c'est comme un corps sans âme. Ce qui veut dire qu'on peut faire la même misva, deux personnes peuvent mettre les tefillin. Un, au moins, il va mettre les tefillin, il va penser à ses actions en bourse. Et l'autre, au moment où il va mettre les tefillines, il va penser à s'unir, à s'attacher à Dieu. Ils font les deux la même mitzvah d'un côté de l'autre. La mitzvah, elle n'a pas le même mérite dans le ciel. Un, son attention est plus noble que l'autre. Mais les deux, ils ont fait la même mitzvah. La mitzvah, on l'a tous fait. Après, l'intention qu'on a quand on fait la mitzvah, elle peut changer toute la dimension de la mitzvah. Et ça peut être un bonus à la mitzvah. Donc, on voit en réalité que c'était ça l'épreuve d'Avraham. On voit qu'Avraham, dans la paracha Vayera, une chose extraordinaire. Quand il y a les trois malachim qui viennent sous la forme d'Ismaël, d'accord ? Avraham, il était au troisième jour après la Brit Mila. On nous rapporte que le troisième jour après la Brit Mila, on a pour coutume de faire ce qu'on appelle la Talit Lila chez les Tunisiens. D'accord ? Le troisième soir, après la Brit Mila, on fait venir la famille, on fait une Seuda Oda pour remercier Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on considère que quand on sort du troisième jour après la Brit Mila, l'enfant n'est plus en danger. Durant les trois premiers jours, après sa Brit Mila, on considère qu'un enfant, il est en danger. Il lui faut le repos le plus total. Avraham Avinu, il est dans le troisième jour. À Kadosh Baruch Hu, pendant trois jours, il laisse tranquille. Il lui envoie, il voit qu'Avraham, il est triste. Pourquoi ? C'était quoi le kiff d'Avraham ? De faire la Knasat Orchim. On nous rapporte qu'Avraham, il avait monté une tente dans le désert qui était magnifique, qui était grande. Il avait tout ce dont il avait besoin. Il est parti à Avraham, il a demandé à son fils Ishmaël, quand il a vu les trois invités arriver à lui, d'aller pour chacun d'eux égorger un veau, pour servir à chacun d'eux une langue. Avec de la moutarde, leur servir les plats les meilleurs, les plus connus à l'époque, c'était le plat le plus populaire, le plus goûteux, le plus appréciable, d'accord ? On voit quoi ? Qu'Avraham, il leur a fait une table de roi, il faisait des tables de roi à tout le monde, au milieu du désert. Si, imaginez, vous êtes mort de faim, mort de soif, et vous voyez là une tente, au milieu du désert, où il y a un monsieur qui a une tente avec quatre portes. À chaque coin de la tente, il y a une porte. Pour que la personne, quelle que soit la direction dont elle vient, elle puisse rentrer dans cette tente. Et là-bas, on lui sert à manger, on lui dit une chose. Le repas que tu as, c'est un repas royal, festif. Tout ce qu'on te demande, c'est de remercier Dieu pour ce repas. Tu remercies Dieu pour ce repas, le repas, il est gratuit. Tu ne remercies pas Dieu, il faut payer l'addition. C'est Avraham Avinu. Il faisait comme ça. Mais on voit qu'Avraham Avinu, devant sa tente, il avait quelque chose d'extraordinaire, un arbre. Il avait un arbre. Et que chacun des anges, quand il est venu, il les a mis sous l'arbre. On nous rapporte que cet arbre-là, avec ses feuilles, il venait quand les gens étaient disposés à abandonner l'idolâtrie, parce que tout le monde était idolâtre à l'époque d'Abraham. Quand ils étaient disposés à abandonner l'idolâtrie, l'arbre venait encadrer Abraham, encadrer l'invité. Mais en réalité, on dit que cet arbre-là, il se fermait comme une pièce hermétique et se remplissait d'eau. On faisait un migvé à la personne. Et qu'Abraham, avant de le faire entrer sous l'arbre, c'était Abraham en personne qui venait. Un seigneur de guerre, un homme qui était à la tête d'une armée, qui venait nettoyer les pieds de n'importe quel invité. Et là, il y a un midrash extraordinaire qui nous rapporte une chose fantastique. On dit que Yitro, en Égypte, ça c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un bonbon que je vous donne. Yitro, en Égypte, c'est un des trois conseillers, un des principaux trois conseillers de Pharaon. Et quand Bilam a conseillé de faire jeter dans le Nil tous les garçons, parce que les sages de Pharaon avaient vu dans le ciel, dans les étoiles, que viendrait au monde un enfant parmi les nations, la nation d'Israël, qui va venir et anéantir la royauté et la dynastie des pharaons. Alors, Bilam a dit, il faut agir, il faut éliminer tous les garçons, s'il y a un garçon qui va sortir de là. Celui qui s'est opposé à ça, c'était Yitro. Yitro, c'était qui ? Rohen Midian. Yitro, Rohen Midian, le grand prêtre de Midian, le pays où il y avait, c'était le top du top pour l'idolâtrie. Et on dit que Yitro, en réalité, il était aussi appelé Chovev. Pourquoi ? Parce qu'il aimait Dieu, depuis qu'il était tout petit. Comment ? Quand il était petit, on rapporte qu'Yitro, il a traversé le désert avec son père. Et qu'ils étaient morts de faim, morts de soif. Et là, ils ont vu une tente. Ils sont arrivés sous la tente. Et là-bas, il y avait un monsieur qu'ils avaient mis sous un arbre. Vous avez pigé, c'est Avraham Avinu. Et Avraham Avinu, il leur a fait des livrets Torah. Et on nous rapporte, en réalité, dans le Pshat, qu'Avraham Avinu, à chaque point cardinal de sa tente, quatre points cardinaux de sa tente, il avait une entrée. Mais on rapporte qu'il avait aussi une fenêtre sur la tente. On dit pourquoi il avait une fenêtre au-dessus ? Il avait une entrée au-dessus. Parce qu'on rapporte que quand Avraham, il avait bâti sa tente sous le modèle du Beth Amikdash dans le ciel, les malachim dans le ciel, quand on demande Avraham, il était là pour leur enseigner la parole divine qu'il avait reçue de la bouche de Dieu. Les malachim eux-mêmes descendaient dans la tente pour écouter Abraham. C'est pour ça qu'on nous rapporte que c'est une image que la tente, elle avait aussi une porte au-dessus, une fenêtre sur son toit. Permettre aux malachim de venir et de rentrer, d'écouter les divrei Torah. Yitro, quand il a vu toute cette kedusha, il a pris sur lui de servir à Kadosh Baruch Hu. Le problème qu'il y a, c'est que dans le pays de Midian, quelqu'un qui n'était pas idolâtre était passible de mort. Donc Yitro, toute sa vie, secrètement, il a servi à Kadosh Baruch Hu. On comprend mieux comment Yitro, il a eu le mérite de devenir le beau-père de Moshe Rabbeinu. On comprend mieux pourquoi Yosef, avant son décès, il avait chargé Yitro, qui était encore un jeune prêtre, de prendre le bâton d'Abraham Avinu, qui avait été transmis à Yitzhak, qui avait été transmis à Yaakov, qui va être par la suite transmis à Moshe Rabbeinu, un bâton en saphir qui avait été donné par Dieu à Adam Arishon, et que Abraham va récupérer lorsqu'il va découvrir la Maharat Marpella. Quand il découvre la Maharat Marpella, le caveau des patriarches, on voit quoi? On voit que là-bas, il va avoir une odeur de Gan Eden. Et on dit que Adam et Chava vont se dévoiler à lui pour dire c'est ici que Dieu nous a créés, et c'est ici que tout a commencé, et c'est ici un des endroits les plus saints de son monde. Et là, Abraham, il va lutter contre les Hittim, entre guillemets, pour ne pas accepter la Maharat Marpella en cadeau et acheter la Maharat Marpella pour avoir le mérite de l'achat.
C'est
Hebron. C'est à Hebron, exactement. Hebron, Milachon Chibour. C'est l'endroit où il y a un chibour particulier entre nous et Akadosh Baruch Hu. C'est ça, Hebron. Pour quelle raison? On dit qu'aujourd'hui, on a des téléphones portables. Il y a des endroits où on capte mieux qu'ailleurs. Aujourd'hui, il y a la 3G, il y a la 4G. La 4G serait mieux que la 3G. Il y a des endroits où on a plus de réseau qu'ailleurs. De la même façon, Dieu, il nous enseigne qu'il y a des endroits dans ce monde où certaines choses se sont faites, certaines bonnes actions se sont menées, et là-bas, on a un meilleur réseau pour communiquer avec Dieu qu'ailleurs. Hebron est un des endroits. D'ailleurs, on nous rapporte que David Améler, pour pouvoir récupérer la ville de Jérusalem, il a d'abord régné sur la ville de Hebron, et c'est grâce au fait qu'il a reconquis la ville de Hebron auprès des Philistins, contre les Philistins, qu'il a pu après devenir le roi de tout Israël et réunir le royaume d'Israël. Et pouvoir commencer les travaux des fondations du Beth Amikdash et des murailles de Jérusalem. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une chose ici qui est fantastique entre ces deux parachutes, entre Lech Lecha et Vaera. On voit qu'Abraham, c'est pas un homme si simple que ça à nos yeux. Et qu'en réalité, lui, en acceptant toutes les épreuves qu'il a eues, toute sa vie, qu'est-ce qui l'a fait fonctionner? De venir et de dévoiler la parole divine dans ce monde. Abraham, c'était un homme à son époque qui n'avait que des idolâtres. On nous rapporte dans le Talmud que toutes les lois des conversions, de la conversion, on l'apprend de Abraham Avinu. Et après, on l'apprend de Abraham et d'Imaot, de Sarah, Rachel, Rivka, Bila et Zilpa, les servantes de Rachel et Léa. Elles se sont toutes converties. Elles ont toutes été converties au judaïsme. On nous enseigne que le premier converti de l'histoire, le premier qui s'est converti à la parole divine, c'est Abraham Avinu. Donc si on voit ça, comment nous, on doit considérer les non-juifs qui se convertissent? Ça va encore plus loin que ça. On voit qu'Abraham, il habitait dans une génération où il n'y avait pas de juifs. Où il n'y avait pas de juifs. Aujourd'hui, on voit les juifs entre nous, on dit bah, « Baruch HaShem, nous on est juifs et les autres ils ne le sont pas. Bah, »« Baruch HaShem, nous on a la Torah, les autres ils n'ont pas. » C'est vrai, quelque part. Mais on voit une chose qu'il faut bien se rappeler, le Talmud nous rapporte qu'un non-juif qui fait les sept lois de Noé et qui les accomplit, qui n'est pas idolâtre, qui croit en Dieu, qui fait partie de cette loi de Noé, qui ne vole pas, qui ne ment pas, qui ne tue pas, qui établit des tribunaux pour faire respecter des lois, qui n'est pas idolâtre, qui ne mange pas le membre d'un animal vivant, etc., qui va respecter ses enfants, qui va éduquer ses enfants, qui va respecter sa femme, ses parents. Un non-juif, un tel non-juif, il a appelé sa vie qui est sœur de l'âme, un juste sur lequel le monde se repose. Donc nous, on doit se poser la question, quand nous, on ne fait pas Torah ou Mitzvot, quand on ne fait pas les 113 commandements quand il faut bien comprendre que le non-juif qui fait les sept lois de Noé, lui, il a une part du monde futur, il a un mérite supérieur au juif qui ne fait pas la Torah, ou qui ne la fait pas correctement. Donc comment on doit regarder les autres nations? Quand Dieu, au moment de la sortie d'Égypte, il a noyé les Égyptiens, après 210 ans d'esclavage, où ils ont massacré les Bnei Israël, que Dieu est venu lui-même pour faire sortir les Bnei Israël d'Égypte à travers Moshe Rabbeinu, par Moshe Rabbeinu, il a fait sortir les Bnei Israël, c'est Dieu lui-même qui est descendu le soir de Makat Bechorot, de la plaie des premiers-nés, d'accord, où il a tué tous les premiers-nés en Égypte, c'est Dieu lui-même qui est descendu. On voit que quand il noie les Égyptiens au moment de l'ouverture de la mer Rouge, il va refermer la mer Rouge sur les Égyptiens. On voit que les Malachim et les Israël vont chanter la Shira Az Yashir Moshe. Et à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, attendez, moi, je suis en train de détruire mes enfants, je suis en train de détruire une partie de ma création. Ils n'ont pas réussi à se repentir, à faire tes choix. Et vous, les Malachim, et vous, les Israël, vous chantez. C'est une partie de ma création. C'est quoi le but? C'est quoi notre rôle, nous, en tant que Bné Israël? On dit, Kadosh Baruch Hu, Bahar Banouk, Am Segula. Am Segula, c'est pas le peuple élu. C'est un peuple providentiel qui est là pour diffuser la parole divine dans ce monde, pour donner l'envie aux non-juifs de faire les sept lois de Noé et ramener ce monde à la Teshuvah. C'est ça notre but à nous. On est un peuple de prêtres, en réalité. On devrait être les prêtres des nations. Quand on avait le Beth Amikdash, toutes les nations de ce monde venaient faire des corbanotes. On ne disait pas non juste, tu n'as pas le droit de rentrer dans le Beth Amikdash pour faire des corbanotes. Ils venaient, toutes les nations du monde avaient le droit de rentrer et de faire des sacrifices dans le Beth Amikdash. En reconnaissant la parole divine. Parce que c'était notre but, comme le rapporte le Rambam. En réalité, nous, on se remet en question. On n'est pas un peuple supérieur aux autres. On n'a pas une suprématie raciale, Khalila. Celui qui pense comme ça, il se trompe. On est là pour donner l'exemple à l'ensemble de la création, pour savoir comment se comporter vis-à-vis de ce créateur et comment s'unir à son créateur. À Kadosh Baruch Hu, nous, on a pris sur nous les 113 commandements, parce qu'on s'est senti capable. Les autres nations ont tous refusé. On doit, nous, aujourd'hui, en ayant accepté les 113 commandements, entre guillemets, lutter spirituellement contre les nations du monde, pas par la guerre, par la parole, par les idées, pour les convaincre d'accepter les sept lois de Noé. C'est quoi les sept lois de Noé? Ne vole pas, ne mens pas, ne tue pas, ne fais pas souffrir les animaux en mangeant le membre d'un animal vivant. Établis des tribunaux. C'est compliqué. Avoir une moralité et reconnaître Dieu et ne pas être idolâtre. C'est compliqué. C'est pas compliqué. On doit les inspirer. C'est pour ça qu'on voit que certains mouvements, Baruch HaShem, se sont accentués là-dessus. Et ce, jusqu'à aujourd'hui, font beaucoup de choses. On voit que Omachon Meir, le Rav Uri Cherki, il lutte pour ça. Il fait beaucoup de choses pour inspirer l'envie aux nations du monde de faire les sept lois de Noé. On voit ça. On voit qu'il y a d'autres rabbanim qui le font. Et on voit que les premiers qui ont vraiment lancé le mouvement de façon drastique et très importante à travers le monde, ce sont nos frères les Chabad, Baruch HaShem, à travers la volonté du Rabbi Lubavitch, qui rapportait que sa maison, c'était le 770, 7 lois pour 70 nations. Donc on voit quoi? Que c'est notre but, nous, en tant qu'homme Israël. Donc Be'ezrat Hashem, que chacun d'entre nous ici ait le mérite d'être un Yehudi kasher, un juif apte à faire la Torah et les mitzvot, qui va donner l'exemple et qui va faire du Kiddush Hashem, qui va sanctifier le nom de Dieu dans le rabbin auprès du plus grand nombre. Même auprès des non-juifs, et surtout auprès des non-juifs, et surtout auprès des antisémites, pour leur prouver combien ils ont tort quand ils parlent contre la Torah, quand ils parlent contre les mitzvot, quand ils parlent contre nous, et de comprendre que nous, notre seule volonté, Be'ezrat Hashem, c'est de les inspirer à faire teshuvah, raison pour laquelle dans le Moyen-Orient, on est le seul pays démocratique. On va rappeler, je n'aime pas parler politique, mais vous vous souvenez de Septembre Noir? Vous savez c'est quoi Septembre Noir? 90% de la population jordanienne, ce sont des Palestiniens. La Jordanie a été créée par Laurence d'Arabie. Le Liban, ça a été créé par les nations européennes pour, quand il y a eu la guerre entre les princes arabes, entre le Qatar, l'Arabie Saoudite, entre les Wahhabites, les Sunnites et compagnie, ils sont venus, ils ont créé des nouveaux États. Quand ils ont nommé un président en Syrie, Assad, qui était un roi, qui a un roi invité, un dictateur, ça, en réalité, il fait partie des familles princières. Ils lui ont donné la royauté sur la Syrie. Là-bas, on voit que la population, là-bas, c'est une population à l'origine. Il y a énormément de Palestiniens. Au Liban, il y a énormément de Palestiniens. En Jordanie, il y a énormément de Palestiniens. Quand les Palestiniens n'avaient pas de quoi manger en Jordanie, et ont décidé de se rebeller pour avoir de quoi manger, qu'a fait le roi de Jordanie? Il a envoyé son armée de bédouins. Ils ont massacré hommes, femmes et enfants. Alors après, on peut parler de quelques événements qui ont lieu avec l'État d'Israël. Mais réellement, on voit aujourd'hui, Baruch HaShem, tous les efforts qui sont faits par l'État d'Israël pour créer une démocratie, pour créer la paix, pour créer un mouvement de paix, pour donner, pour rendre des territoires s'il faut, pour qu'on ait le shalom. Et en réponse, on a quoi? Et vous savez pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il manque une seule chose à l'État d'Israël. De mettre en priorité de faire de l'ordre, du seder. Que l'État d'Israël ne peut exister qu'à travers la Torah et les Mitzvot. Si l'État d'Israël ne se construit pas à travers la Torah et les Mitzvot, et ne met pas en priorité la Torah et les Mitzvot, cette paix-là ne pourra jamais se faire. Et les nations du monde auront toujours quelque chose à redire, parce que nos dirigeants feront toujours des erreurs, ils en ont fait, ils en referont. Parce qu'ils ne sont pas dans une logique de Torah et de Mitzvot. Et que s'ils se mettaient dans une logique de Torah et de Mitzvot, alors la paix, elle aurait été obtenue pendant longtemps. On l'a vu, jusqu'à aujourd'hui, on le voit au Maroc. Au Maroc, n'importe quel musulman, il voyait un de nos sages, il voyait un rabbin, il lui embrassait la main.
Dans la Torah, il ne parle jamais de paix. Hmm? De guerre dans la Torah.
Non, il parle de paix.
Dans la Torah, c'est des hommes de guerre. Des...
Non, dans la Torah, on te parle de quoi? Non, non, non. Dans la Torah, non, 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 non. Non, non, attends, excuse-moi, tu parles d'autre chose. Tu parles d'une époque qui est très lointaine, où à l'époque, il y avait des nations qui étaient idolâtres et qui avaient des mœurs horribles. Rappelons-le, les Grecs, ils sélectionnaient les enfants à la naissance, ceux qui n'étaient pas assez forts, on les tuait.
En Chine,
alors, c'est une bonne chose? Mais est-ce que c'est une bonne chose? Comment on peut avoir le droit de vie ou de mort sur un enfant?
Mais si on demande la vie aujourd'hui et que la Torah ne le veut pas, ça sert à rien.
C'est pas la Torah qui le veut, qui ne le veut pas. Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah pour inspirer la paix à travers les nations, en inspirant la volonté aux nations de s'unir à Dieu. La paix ne pourra être possible que quand les nations reconnaîtront Dieu. Aujourd'hui, les nations, toutes les nations, regardez la télévision, regardez les films, tout le monde remet en question l'existence même de Dieu. Il y a même des théories, il y a plein de films de science-fiction, où il y a la théorie où on aurait été créé par des extraterrestres. On voit dans beaucoup de films cette théorie. D'accord? Hein? Mais toi, qu'est-ce qu'on voit en réalité? Et aujourd'hui, on prône la science n'est pas un dogme. On rappellera une chose, au nom de la science, les pires horreurs ont été accomplies. Il faut savoir, vous savez quand est-ce qu'il y a eu le plus grand nombre de progrès médicaux pour l'humanité durant la Seconde Guerre mondiale? Et vous savez grâce à qui? Aux scientifiques nazis. Qui ont fait toutes sortes d'expériences sur les juifs, sur les Romains Michel, sur les homosexuels. Ils les ont massacrés, ils ont mis au point des systèmes pour savoir comment créer à partir des os humains des fertilisants qui soient plus efficaces que des fertilisants à base d'animaux. D'accord? Ils ont mis au point des technologies pour savoir comment faire des abat-jours à partir de la peau des hommes. Pour faire du savon à partir de notre sébum. C'est la science, ça. On peut dire une chose, on peut dire que la science c'est une bonne chose, ça dépend ce qu'on en fait. Comme la religion, ça dépend ce qu'on en fait. Le problème qu'il y a, c'est que la science, c'est sûr qu'il n'y a pas de guide moral dans la science. C'est chacun, il va prendre la science pour en faire ce qu'il veut. Alors que dans la Torah, il y a une moralité. Il y a des histoires. On nous rapporte quoi? On nous rapporte dans la Gemara, on dit parfois, il y a des histoires sur des sages. On nous rapporte des histoires sur des tzadikim. Et leurs ânes, sur Rabbi Akiva, et son coq, et son âne, et sa bougie, et d'autres histoires comme ça. On dit, mais pourquoi tout le monde nous raconte des histoires pareilles? La Gemara, le Talmud, c'est fait pour nous enseigner les lois. Pourquoi vous nous racontez des histoires au mieux? On dit, pourquoi? Parce que si tu veux comprendre la crainte de Dieu, si tu veux comprendre pourquoi la Torah t'a été donnée, il faut étudier la Haggadah, ces histoires-là. Pourquoi, à Kadosh Baruch Hu, la base même de la Torah, toutes les lois, il te les donne dans le Roumash, où là-bas, au départ, on te raconte les histoires d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, depuis Adam. D'accord? Pourquoi? Parce que pour comprendre toute la moralité. Comment nos pères, comment il a appelé Sefer Bereshit? Sefer Yesharim, le livre des droits. Pourquoi? Parce que là-bas, on nous parle d'Adam, on parle de Noir, on parle d'Abraham, on parle d'Israël, on parle d'Yaakov, on nous parle des 12 tribus d'Israël. Comment eux, ils ont utilisé la Torah pour l'appliquer? Comment eux, quand ils ont fauté, quand les 12 tribus ont fauté dans la bande de Yosef, comment eux, ils sont venus, ils ont fait Teshuva pour s'arranger? Comment l'homme n'est pas parfait, il a appelé à fauter? Comment il réagit à travers la faute, à travers l'outil extraordinaire que Dieu lui a donné qui s'appelle la Torah et les Mitzvot. Et cet outil extraordinaire, c'est quoi? C'est quand on voit que malheureusement des guerres ont été nécessaires pour entrer sur la terre d'Israël, il faut savoir une chose. Ces guerres-là n'auraient jamais été nécessaires si l'ensemble de l'humanité avait décidé de s'unir à son Créateur. Il n'y aurait jamais eu de déluge si l'ensemble de l'humanité à l'époque avait décidé de servir son Créateur. Il n'y aurait jamais eu d'épreuve si Caïn n'avait pas tué Abel. Si Cain n'avait pas tué Abel, on aurait eu beaucoup moins de problèmes. C'est par nos manques et par nos avérotes, nos fautes, que que le monde, il en est là où il en est. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, les guerres et le manque de moralité se sont installés. Et sont devenus une nécessité pour certains, malheureusement. On rappellera une chose extraordinaire. On voit dans Mein Kampf, Adolf Hitler, il rapporte la raison pour laquelle le peuple d'Israël doit être exterminé. Il dit le peuple d'Israël doit être exterminé parce que même lorsqu'ils sont acculés, même lorsqu'ils n'ont rien, ils ont toujours l'espoir de pouvoir se retrouver à la tête. Ils ont toujours l'espoir de se remettre en question grâce à leur histoire, grâce à leur Torah, grâce à l'histoire de leur père, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et ils empêcheront toute suprématie dans ce monde. Parce que tant qu'ils seront là, n'importe quelle minorité pourra se croire forte, pourra se croire, entre guillemets, dotée d'une bénédiction, d'une aide divine. Et ça, c'est ça qu'il faut éliminer de ce monde. Parce que cette notion-là introduit une notion de moralité dans ce monde qui est fausse. Et Adolf Hitler conclut, ce monde ne pourra tenir que lorsque les forts régneront sur les faibles. Et c'est sa théorie à lui. Quand les forts imposeront leur volonté aux faibles, le monde sera en paix. C'est quoi comme Torah ? Bechelev tichye ! C'est la bracha que Yitzhak a fait à Esav. Tu vivras par le glaive. Par le glaive, tu vaincras. Par le glaive, tu imposeras. Par le glaive, tu imposeras la paix. On voit aujourd'hui. C'est quoi l'ONU ? C'est une armée qui va faire la guerre. Charles de Gaulle, le président Charles de Gaulle, comment il appelait l'ONU ? Il appelait bidule. Pourquoi il dit, mais comment on veut imposer la paix par une armée ? C'est la bidule. Qui prend les décisions là-bas ? Les décisions, elles vont servir les intérêts de qui ? Donc ça veut dire quoi en réalité ? Ça veut dire que cette logique de guerre-là, elle n'existe qu'à travers nos fautes. Et c'est ça que la Torah, c'est de ça dont la Torah parle, mais que si nous on s'unit à Kadosh Baruch, et que si nous on inspire la volonté aux nations de s'unir à Dieu, à travers cette loi pour 70 nations, alors c'est la Géoula, et c'est ça notre job, Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de ramener la Géoula, Mère Abéhénou, Amen.